Musicopolis. Un vendredi de carême, entre 3h et 6h, vers 1648, Rome. Nous sommes au plus tard, en 1648, dans l'oratoire du Saint Crucifix à Rome, là où se réunit la congrégation du même nom. Dans le but d'élever l'âme des fidèles, on a pris l'habitude de faire entendre, au moment du carême, des histoires sacrées qui vont les entraîner à la contemplation des choses célestes. Ce jour-là, on chante l'histoire de Jephté, musique de Carissimi. Le chanteur qu'on entend au début de l'histoire de Jephté de Carissimi incarne le récitant, nommé ici en latin historicus. Il met en place le décor, puis attire notre attention sur le personnage principal. Comme le roi des fils d'Ammon appelait les enfants d'Israël à la guerre et ne voulait pas écouter les paroles de Jephté, l'esprit de l'Éternel se posa sur Jephté. Il marcha contre les fils d'Ammon et adressa un vœu à l'Éternel en disant « Jephté vient de s'adresser à Dieu en disant « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira en premier des portes de ma maison au-devant de moi, je l'offrirai en holocauste à l'Éternel. » Voilà, l'action est lancée et il ne faut pas être sorcier pour deviner que la personne qui va sortir en premier de sa maison va être quelqu'un de particulièrement cher à son cœur. D'ailleurs, les fidèles qui sont réunis lors de cette première dans l'oratoire du Saint Crucifix connaissent évidemment l'histoire par cœur. Ils assistent à présent à la bataille entre les fils d'Ammon et les fils d'Israël, une bataille rendue uniquement par le truchement de la musique. L'histoire de Jephté de Carissimi est ce qu'on appelle aujourd'hui un oratorio, c'est-à-dire une pièce qui se chante dans un oratoire, un lieu de prière. Dans son dictionnaire de musique en 1703, Sébastien de Brossard définit l'oratorio comme une espèce d'opéra spirituel ou un tissu de dialogue, de récits, de duos, de trios, de ritournelles, de grands chœurs, etc., dont le sujet est pris ou de l'écriture ou de l'histoire de quelques saints ou saintes. La musique en doit être enrichie de tout ce que l'art a de plus fin et de plus recherché. Les paroles sont presque toujours latines. La musique d'un oratorio doit être capable d'exprimer tous les sentiments des personnages et ceux du public qui entre en empathie. À l'exaltation de la bataille, à la peur subie par les Ammonites, succèdent leurs lamentations. Avec des cris affreux, ils furent humiliés devant les enfants d'Israël. Nous voici à environ 4 minutes du début de cette histoire de Jephté, ce qui correspond à la fin de la grande scène d'introduction. Le décor a été planté, le personnage principal, Jephté, s'est exprimé, et le narrateur, qui est représenté suivant les moments par l'un ou l'autre des chanteurs, ou même par plusieurs chanteurs à la fois, nous a raconté la bataille contre les Ammonites. Le nœud de l'intrigue, promesse de Jephté de sacrifier la première personne qu'il allait rencontrer, a été bien posée et nous attendons maintenant de voir qui sera cette personne. Nous avons le temps de faire connaissance avec le compositeur Giacomo Carissimi. Giacomo Carissimi a été baptisé en 1605 dans la petite ville de Marino, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome. On ne connaît pas sa formation, mais on sait qu'à 18 ans, il chante à la cathédrale de Tivoli, cette fois-ci 30 kilomètres à l'est de Rome. Et peu de temps après, il est nommé organiste. 3 ans plus tard, on le retrouve à Assise, maître de chapelle. Et à 23 ans, il arrive à Rome, au service du Collegio Germanico. À la fin de l'année 1629, il a 24 ans, le maître de chapelle meurt et le jeune Carissimi lui succède. Il va rester au même poste jusqu'à sa mort. Le Collegio Germanico, collège germanique, est une institution destinée à préparer des jeunes Allemands à la prêtrise. L'établissement appartient à la Compagnie de Jésus. Il comprend d'une part le collège, proprement dit, et d'autre part une église dans laquelle les pensionnaires vont chanter et faire leurs dévotions.
Desiderata nobis et universo habilis mundo, natalis alis salvatoris dies.
Desiderata nobis et universo habilis mundo, natalis alis salvatoris dies.
Les tâches de Carissimi sont diverses au Collegio Germanico et lourdes, certainement. Il doit proposer de la musique à chanter, éventuellement la composer et la faire copier. Il faut ensuite faire répéter pour toutes les occasions, quotidiennes ou exceptionnelles, aussi bien pour le collège que pour l'église. Et bien sûr, enseigner les élèves, les grands et les petits. Leur apprendre à chanter la polyphonie et le chant grégorien. Et pour les plus doués, leur donner les bases du contrepoint et de la composition. En 1637, Carissimi a été autorisé à recevoir la première tonsure, les ordres mineurs. Il est donc resté célibataire. Il a eu d'autres responsabilités musicales que le Collegio Germanico ou d'autres engagements pendant sa carrière. Il a en particulier été nommé maître de chapelle de la reine Christine de Suède, installée à Rome à partir de 1655. Pour elle et son cercle, il a composé de nombreuses cantates profanes, dans lesquels il s'est permis beaucoup de liberté. Et un certain nombre d'œuvres lui ont été commandées. Malheureusement, une grande partie de sa production a été perdue. Plusieurs propositions lui ont été faites de postes très intéressants et enviables, comme par exemple de prendre la succession de Feu Monteverdi à la tête de la chapelle de San Marco de Venise, ou encore de prendre des postes de même nature à Bruxelles ou à Vienne. Mais il a refusé fermement, arguant de sa santé fragile. Un témoin nous dit que Carissimi était grand, frêle, mélancolique et goutteux. Comme Jephté victorieux revenait vers sa maison, sa fille unique se précipita au-devant de lui avec des tambourins et des danses et elle chantait ainsi. Dans cette histoire de Jephté, suit un long passage de réjouissance dans lequel Carissimi fait alterner les paragraphes dévolus à la fille de Jephté et ceux chantés par le chœur. Les rythmes changent, plus animés pour évoquer les cymbales et tambourins. Ils se font plus recueillis lorsqu'il est question d'offrir ses hymnes au Seigneur. Thank you. nous avons quelques renseignements sur la manière dont se déroulaient les oratorios, grâce à un certain André Maugars, français, célèbre joueur de viol, qui a voyagé à Rome en 1639. Il parle d'une sorte de musique qui n'est pas du tout en vogue en France et qui s'appelle « style récitatif ». La meilleure que j'ai entendue, écrit-il, ça a été en l'oratoire Saint-Marcel, où il y a une congrégation des frères du Saint-Crucifix, composée des plus grands seigneurs de Rome, qui par conséquent ont le pouvoir d'assembler tout ce que l'Italie produit de plus rare. Et en effet, les plus excellents musiciens se piquent de s'y trouver, et les plus suffisants compositeurs briguent l'honneur d'y faire entendre leurs compositions et s'efforcent d'y faire paraître tout ce qu'ils ont de meilleur dans leur étude. Cette admirable et ravissante musique ne se fait que les vendredis de carême, depuis 3 heures jusqu'à 6. André Maugars ne dit pas quelle pièce il a entendue. On ne sait pas si le Jephté de Carissimi avait déjà été composé à cette date, mais imaginons. Et poursuivons le récit de l'oratorio. Lorsque la fille de Jephté vient en chantant et dansant à la rencontre de son père, celui-ci comprend qu'il va devoir la sacrifier. André Maugars nous décrit le déroulement de l'après-midi à l'oratoire de Saint-Marcel. Il y a un spacieux jubé avec un moyen orgue très doux et très propre pour les voix. Aux deux côtés de l'église, il y a encore deux autres petites tribunes où étaient les plus excellents de la musique instrumentale. Les voix commençaient par un psaume en forme de motet et puis tous les instruments faisaient une très bonne symphonie. Les voix, après, chantaient une histoire du Vieil Testament en forme d'une comédie spirituelle, comme celle de Suzanne, de Judith et d'Holoferne, de David et de Goliath. Chaque chantre représentait un personnage de l'histoire et exprimait parfaitement bien l'énergie des paroles. Je ne saurais louer assez cette musique récitative. Il faut l'avoir entendue sur les lieux pour bien juger de son mérite. Dans l'histoire de Jephté, sa fille unique se résigne à être sacrifiée. Mais elle demande à pouvoir errer sur les monts avec ses compagnes pendant 2 mois pour pleurer sa virginité. Elle invoque ensuite « Ô mont, ô vallée, lamentez-vous sur la tristesse de mon cœur ». Le voyageur français André Maugars donne encore quelques précisions sur les chanteurs entendus à l'oratoire de la congrégation du Saint-Crucifix. Il y a un grand nombre de castrati pour le dessus. Oui, Pas de voix de femme, bien sûr, dans les églises de Rome, c'est interdit. Il signale aussi de fort beaux ténors et peu de basses. Ils sont tous très assurés de leur partie et chantent à livre ouvert la plus difficile musique. On peut imaginer comme les étrangers étaient impressionnés par les prestations musicales entendues. Voilà comment s'est fondée la réputation de Carissimi comme maître de chapelle et comme compositeur. Malgré le peu d'œuvres publiées de son vivant, et bien que de nombreux manuscrits aient souffert des incendies, des pillages et des guerres, sa musique a été recopiée, notamment par son élève Marc-Antoine Charpentier, et précieusement conservée pour notre plus grand bonheur. Plorate, fili, Israël, pleurez, fils d'Israël, la fin de l'histoire de Jephté de Giacomo Carissimi, l'ensemble William Byrd, dirigé par Graham O'Reilly. Tout le programme, la réécouter, le podcast, sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis, l'intégrale, pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Delphine Baudet pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.